Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 5 septembre 2020. Journée particulière pour moi parce que Germain, je suis un peu loin de toi. Disons que le studio est assez élastique aujourd'hui.
Ben effectivement, on respecte la distanciation physique plus que jamais, ouais. Je pense.
Oui, parce que là, je me trouve aux îles de la Madeleine, installé devant mon écran à te regarder la face sur Skype.
FaceTime, oui.
Exactement. On va recevoir un peu plus tard Daniel Breton, qui est PDG de Mobilité électrique Canada. Lui va venir nous parler de véhicules à hydrogène et je trouve ça intéressant parce que j'ai fait tout récemment l'essai du Hyundai Nexo du côté de la région de Québec pour me convaincre que l'hydrogène n'avait juste pas sa place sur notre marché. Mais Daniel va nous en parler.
On était un peu arrivé avec cette conclusion-là quand on avait conduit la Toyota Mirai, mais là, on dirait que Hyundai en rajoute une couche avec le Nexo.
C'est
là.
Ça. Oh, ouais, à 73 000 $ avec aucune façon de se recharger.
Un excellent achat.
Un excellent achat. Bon, écoute, je pense que la nouvelle qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre cette semaine, c'est finalement du nouveau du côté de chez Jeep. On a dévoilé deux nouveautés. En fait, quatre si on considère ce qui a été dévoilé aussi du côté de l'Europe. Là. Le Wrangler qui sera disponible en version 4XE hybride enfichable. Même chose pour les Renegade et Compass du côté de l'Europe, mais ça pourrait s'en venir chez nous. Et la grande nouveauté aussi, c'est le retour du Wagoneer / Grand Wagoneer, qu'on a d'abord dévoilé sous un prototype, mais on a aussi confirmé que le véhicule de production qu'on attend pour le printemps prochain sera très, très, très fidèle au concept qu'on a présenté cette semaine.
Oui, parce que c'est ça. Si les gens à la maison ont eu la chance de voir les photos, là, ça n'a pas l'air d'un vaisseau spatial. Oui, il y a du chrome. Oui, c'est très ostentatoire comme présentation. Oui, ça flash. Mais franchement, on pourrait mettre ça sur le marché directement. Puis je pense que personne ne serait choqué. On se réattaque hein, chez Jeep, un marché qu'on avait abandonné depuis la fin du Commander. Si on veut, donc du VUS de grand format. Mais là, on y va encore une couche de plus avec le Grand Wagoneer et on vise un marché un peu plus luxueux. Est-ce que ça va être suffisant pour rivaliser des véhicules comme le Cadillac Escalade, par exemple? Ça, je ne sais pas.
Pas plus tard qu'hier avec les gens de Jeep. Donc, autant Ralph Gilles, qui est à la tête du design, que Christian Meunier, qu'on connaît parce qu'il a passé plusieurs années du côté de chez Nissan Infiniti.
D'ailleurs, Ralph qui a partagé sur son compte Instagram une photo du Grand Wagoneer avec du simili-bois sur les côtés.
Oui.
J'ai trouvé ça fantastique. Franchement, c'était un très beau clin d'œil au modèle précédent qui, lui, était reconnu là, pour son excès de faux bois. Là.
Et tu connais évidemment mon amour pour les panneaux de bois.
Pour la tapisserie,
alors,
oui.
J'ai pas pu faire autrement que de lui poser la question hier en entrevue. Et il m'a mentionné que, bien sûr, la question avait été étudiée. Est-ce qu'on ramène ça sous quelque forme que ce soit? Et la décision finale a été non, tout simplement parce que le cadre du nouveau Wagoneer, Grand Wagoneer, dépasse de beaucoup la tradition américaine qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, mais les objectifs avec un produit comme celui-là sont très, très grands. Juste pour te donner une idée...
Il y a des compagnies d'après-marché qui vont développer ça, par contre, là, comme on l'a fait avec le Petit Cruiser, avec le HHR, avec tous ces véhicules-là. C'est certain que ça va arriver.
Puis attendez-vous à ce que ce soit peut-être disponible en accessoire Mopar ou quelque chose du genre. Là. C'est pas impossible. Mais c'est sûr que pour Jeep, on est dans un changement de direction complet. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mentionné chez Jeep qu'on voulait devenir la marque de VUS la plus verte au monde. Ce qui n'est pas rien.
Absolument.
Et
absolument.
On part de loin actuellement. Donc ça, c'est un premier statement que Christian Meunier a fait. Donc premièrement, on veut sortir les Jeeps des concessionnaires Chrysler actuels parce que on est un peu conscient que les marques Dodge, Chrysler ne sont pas nécessairement favorables ou disons n'aident pas nécessairement l'image de la marque Jeep.
Donc on veut se distancer là.
On veut se distancer aussi de Ram, parce que Ram vole la vedette et Jeep bat un peu de l'aile, si tu me permets l'expression, à cause de ça. Donc, on veut faire des salles de monde séparées. On veut faire un environnement 100% Jeep. On le fait déjà du côté de l'Europe, mais évidemment, le marché n'est pas le même.
Très hâte de voir l'opinion des concessionnaires face à ça, là, donc de créer des nouveaux bâtiments, des nouvelles salles de montre. Ça va
intéressant parce que on sait que déjà, ils ont été échaudés avec l'obligation de construire des concessionnaires Fiat, et ça, ça n'a pas marché.
Studios
Fiat. On sait que la marque Jeep est très forte, là, mais c'est une première stratégie qui est importante. Et l'autre chose qui m'a surprise, si tu remarques comme il faut, il n'y a aucun logo Jeep sur un Grand Wagoneer.
Non, mais...
Si tu regardes le prototype, il n'y a pas de logo Jeep parce qu'on veut faire de Wagoneer / Grand Wagoneer une sous-marque en soi, un peu comme on l'a fait avec les Range Rover du côté de chez Land Rover. Il n'y a pas d'emblème Land Rover partout sur des Range Rover. Ça sera la même chose avec Jeep. Mais ça va demeurer un produit vendu par les concessionnaires Jeep qui va conserver un design typiquement Jeep.
Ben oui, on a juste à regarder, c'est ça, la calandre. Puis c'est évident que c'est un Jeep. Ça ne peut pas être rien d'autre, à part peut-être un Mahindra. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le Grand Wagoneer, on n'a pas eu beaucoup de détails techniques. N'est-ce pas?
Il n'y a pas de... On a confirmé aucune mécanique autre que le fait que le Grand Wagoneer, donc dans sa version la plus luxueuse, parce que comprenez qu'il y aura le Wagoneer version régulière avec un paquet d'options. Puis on a même souligné qu'il y aurait des versions Overland, qu'il y aurait... On a nommé, sans le confirmer, différentes versions qui seraient disponibles. Et le Grand Wagoneer, lui, se situerait au sommet de la gamme. Et c'est pas compliqué. Un Wagoneer d'entrée de gamme viendra rivaliser avec un Chevrolet Tahoe, alors que le Grand Wagoneer, lui, qui sera un hybride enfichable, viendra pour sa part rivaliser avec un Cadillac Escalade. Et l'objectif ultime de la gamme Wagoneer, c'est d'aller battre GM sur leur propre terrain. Autrement dit, de réussir à faire en sorte qu'on va dépasser les ventes de Tahoe, Yukon, Suburban et Escalade. Mais
c'est extrêmement audacieux parce que c'est ce qu'essaient de faire Ford et Lincoln. Et on avait des produits qui étaient franchement plus moderne dans les dernières années, là, jusqu'à la refonte des GM. Et on n'était pas dans le coup du tout, là, au chapitre des ventes.
Mais on a nommé Ford, bien sûr, et Lincoln comme concurrence, mais on cible vraiment General Motors pour le volume. Et Range Rover, et les Land Rover, Range Rover, parce qu'on veut un peu aussi établir une image aussi forte que celle que proposent les Range Rover, même si le volume de vente n'a rien à voir. Donc, c'est une juxtaposition, si tu veux, des deux stratégies qu'ont GM et Land Rover avec ces produits-là qu'on veut offrir avec la gamme Wagoneer. Et bon, évidemment que les rumeurs font état du moteur 5.7 litres émis comme moteur d'entrée de gamme, le 6.4.
Ce serait bien que ce ne soit pas le Pentastar comme moteur de base, là.
Non, ça sera certainement pas ça, parce qu'on parle d'un prix d'entrée chez les aux États-Unis à peu près 60 000.
Ce serait effectivement gênant de proposer le 3.6.
Oui, c'est ça. Donc, on parle d'un véhicule de gros format qui repose sur le châssis du Ram pleine grandeur. Donc, c'est vraiment un véhicule... dans sa version Grand Wagoneer, vous allez parler d'un véhicule qui va frôler les 6 chiffres et qui va pouvoir les dépasser facilement avec des options. C'est garanti. Produit très important parce qu'il faut quand même considérer qu'il se vend actuellement en Amérique du Nord, je dis actuellement, pour 2019, il s'est vendu un peu plus de 425 000 VUS pleine grandeur en Amérique du Nord si tu considères les modèles réguliers et les modèles de grand luxe. Mm-hmm. Donc, c'est un marché non seulement important, mais très, très, très lucratif.
Et, ça, et où les marges sont et où les marges sont très, très, très importantes. Là,
ben oui, donc, c'est sûr.
Parce que, ben, comme tu l'as mentionné, c'est la plateforme d'une camionnette pleine grandeur. Là, donc, de vendre un Ram 50 000 ou de vendre un Jeep 100 000, voilà, hein, la question se pose pas. Autre nouveauté que tu as mentionnée chez Jeep, c'est le Wrangler 4XE qui avait été présenté là, au Salon de l'Auto de Genève, sans trop de détails techniques. Et ben là, on nous en a dit un peu plus. Et ben on aura droit au moteur à 4 cylindres, 2 litres turbo, et qui va être jumelé à une motorisation électrique pour une autonomie, on nous a dit, d'autour de 40 km là, en mode tout électrique, parce que ça va être non seulement une version hybride, mais une version hybride enfichable, batterie de 17 kWh, tout dépendant de son prix et des subventions, si elle continue d'être offerte au Québec, à 17 kWh, on pourrait être éligible aux subventions.
Ça sera pas sous la barre des 45
000. J'en ai bien l'impression aussi. Donc, mais toujours est-il que sur le plan de la batterie, on y serait, mais je suis pas sûr que l'idée du moteur à 4 cylindres, 2 litres turbo, jumelé en plus à une technologie électrique, ce soit l'idéal là, pour un véhicule.
Ben, en fait, ce qu'on disait du côté de chez Jeep, c'est que cette technologie-là va être idéale pour ceux qui aiment la conduite en route, parce qu'on sait à quel point le couple instantané du moteur électrique permet d'avoir une précision incroyable en conduite en route. Donc, il n'y a pas de lag, si tu me permets l'expression, entre une transmission puis un moteur, etc., etc. Donc, l'électricité pour leur route, c'est génial. Évidemment, la puissance aussi, en combinant l'électricité et le moteur à essence, va faire en sorte que ça sera le Jeep Wrangler le plus puissant du marché, à moins, bien sûr, qu'on commercialise finalement la version L4. Là.
Ouais.
Mais ça, c'est une autre histoire.
Mais moi, c'est plus sur le chapitre de la fiabilité. Chez FCA, quand on met trop de technologies, trop d'éléments qui n'ont pas été testés suffisamment, ben il est arrivé par le passé qu'on se soit un peu planté, là.
Ben d'ailleurs, si tu me permets, je glisse un mot sur le fait qu'il y a un internaute qui m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il y a un problème avec la batterie de son Ram V6 Pentastar avec technologie e-torque, et le camion est stationné depuis maintenant près de 3 mois chez le concessionnaire, pénurie de batterie, pas capable de remplacer ça. Alors, il paye pour un camion qu'il ne peut pas conduire depuis plusieurs mois, et c'est un problème qui est arrivé à peine quelques semaines après qu'il prenne possession de son véhicule. Donc,
et ce serait étonnant qu'il soit seul dans cette situation-là.
Oui, absolument, absolument. Bon, on sort de chez Jeep. Tu veux aussi nous parler de la Mercedes de classe S, qui est une clientèle un peu plus nichée, mais la S qui se renouvelle complètement.
Oui, exactement. Donc, nouvelle génération pour la classe S, qui est bourrée, elle aussi, de technologie. Mais quand je dis bourrée, là, c'est du pare-choc avant jusqu'au pare-choc arrière. Quand on a regardé les photos qui ont été diffusées par le manufacturier, ça frappe l'œil parce qu'elle a 4 roues directionnelles. Donc, pour une berline de ce format-là, c'est quand même un sacré atout parce que on sait quand l'empattement est aussi long, le rayon de braquage, malheureusement, n'est pas optimal. Là, on corrige un peu cette situation-là. Mais toujours est-il que quand on voit les roues arrière être tournées, ça frappe un peu l'imaginaire. On est quand même loin de la prélude de la fin des années 80, cela dit.
Oui.
Sinon, sur le plan mécanique, ben, on a le 3 litres, donc le moteur à 6 cylindres. Et on a aussi, là, évidemment, un V8 biturbo qui est à 496 chevaux. Donc, version à empattement court, à empattement long aussi. Donc, voilà, ça reste un des porte-étendards de Mercedes dans un segment qui n'est pas florissant à l'heure actuelle parce que les berlines sont de plus en plus délaissées, même les berlines de grand format comme ça et de grand luxe.
Oui, on délaisse tranquillement ce marché-là et ceux qui prennent la balle au bon, ce sont les véhicules électriques. On pense à Tesla, on pense à Porsche avec la Taycan qui connaît un bon succès depuis que la voiture est arrivée il y a à peine quelques mois. La Panamera se débrouille quand même bien aussi dans ce segment-là parce qu'elle offre une approche différente, mais c'est sûr que Si tu me parles d'Audi A8, si tu me parles de BMW de série 7, ce sont des chiffres qui sont symboliques, surtout sur le marché canadien, là.
Oui, effectivement. La semaine passée, je pouvais pas en parler parce que l'embargo était encore actif, ce qui était ironique, si tu veux mon avis, puisque les véhicules étaient déjà arrivés chez les concessionnaires. Mais toujours est-il que j'ai assisté au lancement canadien du Toyota RAV4 Prime, un des véhicules les plus attendus cette année, avec le Bronco, assurément.
Et qui sera un des véhicules les plus primés.
Les plus primés, voilà, on l'a dit. Hein? Et je te confirme qu'avec ses 300 quelques chevaux, il est très prime aussi. Voilà, c'est dit. Oui, on a fait le tour des jeux de mots possibles. Cela dit, autonomie annoncée de 68 km. Et tout dépendant là de votre conduite et du parcours que vous allez faire, ça se peut que vous dépassiez cette autonomie-là. C'était mon cas. Donc, sans faire plus attention qu'il le faut, là, en ayant une conduite normale en ce qui me concerne. Donc, franchement, c'est conservateur comme approche. Sinon, ben, on est à 6 litres au 100 de moyenne là, en conduite combinée, ce qui est intéressant. Cela dit, là où
Évidemment, une fois le mode électrique passé, tu tombes en mode hybride et là, tu roules à 6 litres au 100. Écoute, on a réalisé, vous pourrez le voir dans une quinzaine de jours lorsque le livre sortira, mais on a réalisé un match comparatif de véhicules hybrides enfichables comme ceux-là. Ça inclut aussi le Mitsubishi Outlander PHEV et le Ford Escape hybride plug-in. Oui. On avait réalisé, si ma mémoire est bonne, 72 km en mode 100% électrique avec le RAV4, ce qui était quand même assez intéressant. Et bien sûr que à cause de sa puissance, de son rouage intégral, de l'homogénéité du produit, ce véhicule-là s'en sort gagnant haut la main. Le problème, on le sait, c'est la disponibilité.
Exactement.
Il y a déjà quelques véhicules qui ont commencé à être livrés au Québec.
J'en ai vu sur la route, oui.
J'ai moi-même parlé à quelqu'un qui en a pris possession et qui est enchanté. Maintenant, ceux qui veulent faire un bon coup d'argent, c'est peut-être le moment de prendre votre RAV4 et de le revendre sur le marché d'occasion. Vous risquez de faire 5, 6, 7, 8 000 piastres de profit avec ce véhicule-là parce qu'il y a des concessionnaires chez qui il faut attendre jusqu'à 2 ans. Pour réussir à mettre la main sur un RAV4 Prime, c'est quand même pas rien.
Effectivement. Donc, si vous rentrez dans un concessionnaire aujourd'hui là et que vous voulez vous en procurer un et que vous n'avez pas été le premier à faire la file là, il y a quelques mois quand ça a été lancé, bien, effectivement, l'attente est de 2 ans. On nous a dit aussi que parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au RAV4 Prime pour le côté économique. Donc oui, ils ne consomment pas grand-chose. Oui, on peut rouler en mode électrique. On a droit aux 13 000 $ de subvention. Donc ça fait sonner certaines cloches là pour certains consommateurs. Le problème, c'est que la version de base, la version SE, eh bien... on est à 3% de la production et de la diffusion de ce modèle-là. Et on nous a dit qu'il allait avoir à peu près 1000 Toyota RAV4 Prime. Donc, faites le calcul. Il va y avoir 30 SE qui vont être partagés un peu partout au Québec. Donc, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que vous allez avoir...
On va fabriquer des modèles tout équipés.
Des XSE avec l'ensemble technologique. Et c'est un peu plus cher et forcément un peu plus rentable pour le manufacturier. Donc, comme Toyota, c'est pas une œuvre de charité. Ben voilà.
C'est ça, exactement.
De ton côté Lincoln Continental...
Oui, Lincoln Continental. Je me trouve actuellement aux Îles-de-la-Madeleine, Germain, et j'ai conduit la Lincoln pour venir ici. Je voulais conduire une dernière fois une berline Lincoln dans tout ce qui est plus traditionnel. Et j'ai pas le choix de t'admettre que je suis tombé en amour avec cette voiture-là, qui n'est pas sans défaut. Oui, il y a une vieille boîte automatique à 6 rapports. Oui, la voiture consomme de façon considérable.
Mais en même temps, c'est gros et c'est pesant, là, tu sais.
Oui, mais je veux dire, c'est une voiture qui, quand même, sur autoroute, consomme minimalement 10,5 litres au 100 km, ce qui est quand même pas rien si tu compares à une Porsche Panamera qui va t'offrir plus de puissance, de raffinement, puis qui va rouler à 8 litres au 100. Donc, c'est sûr que sur le plan technologique, Lincoln n'est pas là, mais Et GME, on en a déjà parlé dans le passé, c'est probablement la seule voiture qui te donne cet effet de rebond sur l'autoroute.
Tout à fait. C'est une bonne vieille berline.
Sauf que ce n'est pas non plus un inconvénient. Autrement dit, la voiture ne perd pas sa stabilité parce que la suspension t'offre une souplesse. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je me suis amusé à prendre, lorsque j'ai traversé le Nouveau-Brunswick pour me rendre du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, plutôt que de prendre l'autoroute traditionnelle, j'ai choisi de prendre les routes d'arrière-pays qui sont surtout utilisées par du transport forestier, des routes qui sont particulièrement maganées, très sinueuses, où là, j'ai vraiment pu découvrir les avantages techniques de la Continentale. D'une part, sa rigidité structurelle, sa grande stabilité, mais aussi le fait qu'on a un système à quatre roues motrices avec gestion variable du couple aux roues arrière. Et je peux te dire que ça, dans des routes comme ça, tu le sens énormément. La voiture a toujours un aplomb incroyable, sort des virages avec une précision que tu ne t'attends pas d'avoir dans une voiture aussi traditionnelle.
Oui, et ça, ça m'a gros bateau.
Sauf que, évidemment, je suis arrivé ici avec la voiture. Bien que j'aime l'auto, que j'aime son look, que j'aime son côté très traditionnel, je comprends que les ventes ne soient pas là parce qu'à 82 000 $ il n'y a pas grand monde qui va s'acheter une Lincoln Continental. Et le gros défaut de cette voiture-là, c'est quoi? C'est l'image du logo. C'est pas plus compliqué que ça. La conclusion qu'on peut faire, ça fait 20 ans que je suis journaliste automobile, ça fait 20 ans qu'on me casse les oreilles chez Lincoln à me dire que c'est la renaissance de la marque à chaque année. On n'a jamais réussi à faire en sorte que l'image de la marque reprenne ses lettres de noblesse comme c'était le cas jusque, je dirais, au milieu des années 80. Ça, on n'a jamais réussi à le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et juste pour te donner une idée en terminant, Germain, sais-tu combien se vend en moyenne une Lincoln Continental tout équipée d'occasion, une 2017 ou une 2018 qui aurait entre 50 et 75 000 km?
35 000?
Bon, mais t'es pile dedans, tu vois, ça joue, là, j'ai fouillé, là, entre 32 et 37 000 $ tu vas trouver une Lincoln exactement comme celle que je conduis cette semaine et qui coûte 81 ou 82 000 $ à l'achat neuf.
Donc, alors, si on l'achète neuf, c'est pas nécessairement une bonne décision financière, mais si on l'achète d'occasion, peut être pas mal plus intéressant.
Pour moi, c'est un coup de cœur que vous devez vous procurer en modèle d'occasion. Par contre, sachez que des modèles 2019 d'occasion, il n'y en aura pas beaucoup. D'une part, parce que, bon, il y a probablement encore plein de 2019 chez des concessionnaires invendus. Quand je dis plein, toute chose étant relative. Mais il faut aussi vous mentionner qu'il s'est vendu seulement 177 Continental au Canada en 2019. Donc, wow. C'est pas une voiture super populaire.
Non, c'est ça. C'est un bon achat d'occasion, mais encore faut-il la trouver. Il n'y en a pas 50 pages sur Kijiji non plus, là.
Non, exactement.
Les rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto, avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, je me trouvais la semaine passée du côté de Québec où j'ai pu aller faire l'essai du Hyundai Nexo. Donc, c'est un véhicule à hydrogène qui n'est pas officiellement vendu au Québec, qui est officiellement commercialisé du côté de la Colombie-Britannique. Mais évidemment, puisqu'à Québec, il y a une station de ravitaillement à hydrogène, c'est un endroit, disons, de prédilection pour mettre à l'essai un véhicule comme celui-là, qui coûte quand même 73 000 $ et qu'on peut peut-être comparer en matière de format à un... disons à un Santa Fe, deux roues motrices, équipé convenablement avec un look un peu plus
gros. Ce serait un peu plus gros que le Kona, là.
Ouais, que le Tucson même. Okay. C'est un peu plus gros que le Tucson. Mais évidemment, là, j'ai conduit le véhicule, les accélérations sont correctes, ça se conduit comme un véhicule électrique, sauf que, veux-tu m'expliquer ce que tu veux faire avec un véhicule à hydrogène? Et en conduisant ce véhicule-là, ça m'a rappelé à quel point il n'y avait aucun marché pour ça, à mon avis, du moins.
Et que les constructeurs qui s'entêtent à offrir ces produits-là et à en développer.
Bien, en fait, parce que paradoxalement, pendant que je conduisais ce véhicule-là, je me trouve dans Le Bourgneuf, dans la région de Québec, et je passe devant des bureaux du gouvernement du Québec où sont stationnés quatre Toyota Mirai, évidemment aussi alimenté à l'hydrogène. Et là, ben, je m'immobilise, je fais une photo, je réfléchis à tout ça. Et en partageant la photo sur mes réseaux sociaux, il y a un des types qui est affecté à conduire ces véhicules-là qui m'a donné la vérité sur la Mirai à hydrogène. Et parce que moi, je ne crois pas à ça, mais que je pense qu'il y a un électromobiliste bien connu qui n'y croit pas vraiment non plus, ben, on a eu l'idée de l'inviter à l'émission encore une fois. Daniel Breton, salut!
Bienvenue parmi nous, Daniel.
Bonjour, monsieur, ça va bien?
Excellent, et toi?
Oui, ça va bien.
Ah, mon Dieu, toi, les véhicules à hydrogène, Daniel, t'avais écrit dans le Journal de Montréal, il y a quelques mois, à la fin du mois de mai dernier, si je me souviens bien, un article assez intéressant sur ta vision de l'avenir de la voiture à hydrogène chez nous.
Oui, effectivement. Effectivement. Puis, écoute, juste pour revenir un peu dans le temps, là, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures à hydrogène en 1974, ça vous donne une idée. Dans mes cours d'écologie, au moment où on parlait de pollution atmosphérique, j'étais en secondaire 1, puis on parlait à l'époque, là ça fait, on s'entend là, ça fait 45 ans, comme quoi c'était le nec plus ultra, puis c'est vers ça qu'on s'en venait. C'est tombé dans l'oubli, c'est revenu au début des années 2000, lorsque le gouvernement de George W. Bush a investi massivement dans les voitures à hydrogène. Ils avaient délaissé l'électrique pour aller vers l'hydrogène. C'est revenu.
Il y a des constructeurs, européens aussi qui ont investi des sommes massives.
BMW, entre autres.
Ben écoutez, moi en 2004, j'étais à une exposition à l'Expo Centre dans le Vieux-Montréal où ils nous parlaient des BMW série 7 à hydrogène, système hybride, mini à hydrogène. Ils nous disaient, ben pour nous, c'est ça l'avenir. En 2009...
Tu viens de la Mazda RX-8 à hydrogène aussi?
Absolument. Ouais. En 2009, il y a eu une grosse annonce avec le premier ministre du Québec, Jean Charest, à l'époque, avec des gens du gouvernement fédéral, pour transformer en véhicule à hydrogène toute la flotte de véhicules de transport de marchandises et de passagers à l'aéroport Trudeau. ce qui a été un flop.
Ça ne s'est pas produit, non? C'est ça?
Ben non. Ils n'étaient pas prêts.
Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Fait qu'ils ont tout ce qui avait été converti à l'hydrogène a été reconverti au propane. Fait que bref, moi, des histoires comme ça, je les entends depuis tellement longtemps. Tu sais, de dire l'hydrogène s'en vient, mais à cette vitesse-là, là, je veux dire, on va tous mourir de vieillesse.
Parce que le principal enjeu est aussi sa principale qualité au véhicule à l'hydrogène. Autrement dit, son ravitaillement est plus rapide que la recharge d'un véhicule électrique, mais en même temps, on ne peut pas la ravitailler nulle part.
Écoute, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que jamais il n'y aura de véhicule à hydrogène sur les routes dans le monde. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir un marché pour les véhicules lourds, pour les longues distances. Mais quand on regarde l'évolution rapide des technologies de batteries de véhicules électriques, écoutez, on est passé d'un temps de recharge pour, par exemple, une Nissan Leaf 24 kWh en 2011, où ça te prenait 3/4 d'heure pour recharger 80 km. Puis là, ben en 15 minutes, tu peux en charger 400 10 ans plus tard. Donc, le temps de recharge s'accélère. Ouais. L'autonomie des véhicules électriques s'accélère. Moi qui me promène avec une voiture électrique avec une autonomie de 500 km, je veux dire, la Mirai a une autonomie de 475 km, mais quand je compare les deux temps de recharge d'un versus l'autre, on n'est plus bien loin. Là. Quand il y en a un, ça prend 3 minutes, l'autre s'en prend 15.
On n'est plus bien loin, sauf que si le seul avantage de la voiture à hydrogène, c'est d'être plus rapide au niveau de la recharge, faut aussi considérer le coût de ravitaillement, parce qu'on parlait, pour remplir une Mirai, on parle de entre 80 et 90 $ d'hydrogène.
Ouais.
Actuellement. Donc, c'est pas le même prix que de recharger une Tesla qui va te coûter.
On n'est pas loin d'un gros, réservoir de super, là, rendu là.
Ben, ça coûte plus cher que faire le plein d'une voiture à essence équivalente. Fait que ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Puis, il y en a plein d'autres que j'ai mentionnés dans mon texte. Ce que je disais, c'est d'un point de vue écologique, tu as à peu près 95% de l'hydrogène aujourd'hui qui est produit à partir de gaz naturel. Si c'est en Amérique du Nord, ben, ça veut dire que c'est du gaz de schiste. Donc, l'impact écologique d'une voiture alimentée au gaz naturel qui vient des schistes, ben, t'as pas un gros gain environnemental. T'sais? Ensuite de ça, ben, t'sais, si tu dis oui, au Québec, par contre, on peut le faire avec l'électrolyse de l'eau, on en parle beaucoup. L'électrolyse de l'eau, c'est sûr que c'est un moyen beaucoup plus écologique parce que nous, notre énergie est renouvelable. Donc, on pourrait faire de l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène. D'ailleurs, c'est un projet d'Hydro-Québec. Sauf que le problème, c'est que la perte énergétique dans le processus de la production de cette énergie-là fait en sorte que pour faire avancer une voiture à hydrogène, tu vas prendre autant d'énergie que pour faire avancer trois voitures électriques. Fait que c'est un énorme gaspillage d'énergie.
C'est ça.
C'est épouvantable. Ensuite de ça, ben les bornes de recharge rapide, c'est ça. Si tu es allé à la station-service à Québec, écoute, ça a coûté 5,5 millions de dollars pour cette station-là. Mmh. Et là, t'as pas 12 pompes, là, t'en as une.
Wow.
Imagine-toi.
On avait calculé que...
De ce temps-là, il y a des restaurants qui font faillite parce qu'ils sont dans le trou de 50 000, tu sais.
C'est ça.
Ah non, ça n'a aucun bon sens. Écoute, si tu me permets, Daniel, il y a un des internautes qui m'écrivait sur ma page Facebook en me disant « Nous, on en a conduit de ces voitures-là parce qu'ils travaillent pour le gouvernement du Québec. » Et ce qu'ils me mentionnaient, c'est que les voitures sont littéralement stationnées depuis 4 mois dans le stationnement du gouvernement. Les voitures sont quasi inutilisables. Les gens ont peur de la prendre. Il y a toujours des problèmes avec les véhicules. Et en plus, l'hiver, ben, recharger ça ou faire le plein, si tu veux, c'est à peu près impossible parce que le fusil pour faire le plein gèle littéralement dans le tuyau de remplissage. Évidemment, c'est de l'eau. Donc, imagines-tu à quel point on est loin de la perfection?
Ouais. Ouais, fait que bref, à mon avis, ce qu'on nous fait miroiter depuis de nombreuses années chez certains constructeurs, Toyota en particulier, mais d'autres aussi, pour moi, c'est loin d'être la panacée pour les véhicules légers. C'est pour ça que l'an dernier, j'ai écrit que la partie était perdue là, pour les véhicules à hydrogène dans les véhicules légers, là, voitures, camions légers. Pour moi, les véhicules électriques ont remporté la partie, puis l'écart ne va aller que croissant.
Et pourquoi ça serait plus intéressant pour les véhicules lourds, le transport de plus longue distance? Où serait le gain à cet effet-là?
Ben en fait, c'est parce que là, c'est que tu peux transporter des réservoirs pour faire en sorte que si tu as besoin de parcourir 1200, 1500, 2000 km dans une journée, là, il peut y avoir un intérêt. Puis à mon avis, cet intérêt-là va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on arrive avec les nouvelles batteries, de nouvelles technologies.
Donc, tu transporterais toi-même des réservoirs pour te remplir à nouveau?
Ben en fait, c'est que tu as des gros réservoirs, puis après ça, ben, tu peux arrêter une station-service de ravitaillement d'hydrogène pour les camions lourds longue distance, ou tu peux faire le plein quand même plus rapidement, puis pour eux, tu sais, le temps, c'est de l'argent, c'est le cas de le dire, là. Donc, il y a encore une avenue qui est envisageable pour l'hydrogène et les véhicules lourds à longue distance, mais pour les camions de marchandises courte et moyenne distance, ben là, on est déjà rendu avec l'hybride puis l'électrique. Des compagnies comme Lyon, d'ailleurs, qui vient de recevoir une commande du Canadien national il y a quelques jours à peine, de 50 camions.
Mm-hmm.
Fait que donc, la tarte se rétrécit là, pour les véhicules à hydrogène. Il pourrait y avoir marché peut-être pour les avions, pour les bateaux, des systèmes hybrides hydrogène électrique. Ça pourrait être intéressant.
Mais une voiture pour monsieur et madame tout le monde pour faire ses déplacements quotidiens,
ah, mon Dieu.
Il n'y a pas d'avenir là.
Moi, je pense que c'est, comme on dit, game over.
Alors pourquoi tu penses que Toyota et Hyundai et d'autres constructeurs automobiles continuent de mettre de l'énergie pour développer cette technologie-là qui nous semble complètement inadaptée?
Honnêtement, moi, je pense parce que c'est difficile, après avoir mis des efforts pendant autant d'années, voire des décennies, à dire on tourne le dos à ça, là, j'imagine que c'est un deuil qui est à faire. Pareil comme, moi je me rappelle, il y a quelques années à peine, il y avait des constructeurs automobiles qui nous juraient la main sur le cœur que l'avenir c'était le diesel propre.
Mm-hmm.
Puis il y a des gens qui sont obligés de commencer à faire leur deuil de ça, mais ça a pris scandale du dieselgate que les gens se rendent à l'évidence.
Oui, on a forcé la main un peu, là.
On a forcé, ben c'est exactement ça. Puis moi je me rappelle être allé chez Volkswagen en 2014, où eux nous disaient, non, l'avenir, ce sont les véhicules au diesel propre et peut-être l'hydrogène, pas vraiment l'électrique. On est rendu quelques années plus tard, Volkswagen a complètement viré son chapeau de bord.
C'est pas uniquement Volkswagen, l'ensemble des constructeurs européens ne croyaient pas nécessairement aux véhicules électriques et avaient mis de l'énergie d'un côté sur le diesel et de l'autre côté sur le développement un peu plus expérimental de l'hydrogène. Mais la voiture électrique, par les constructeurs européens à cette époque-là, c'était barré, c'était pas considéré. Et c'est Toyota qui, avec ses véhicules hybrides, était ironiquement en avance sur tout le monde. Bon, là, on s'est fait rattraper parce qu'on n'a pas de 100% électrique chez Toyota, bon, etc. Mais je veux dire, c'est pas loin, là. 2015, on parle de 2014-2015, on parle d'il y a 5-6 ans seulement, là. Donc, le capot a viré de bord complètement en un temps record.
Oui, tu as tout à fait raison. Puis moi, je sens que l'hydrogène... je sens que l'hydrogène va continuer. D'ailleurs, je veux dire, l'automne dernier, quand j'étais à Los Angeles, les gens de Toyota nous ont fait visiter des installations pour des camions lourds longue distance à hydrogène sur lesquels ils travaillent en collaboration. Et je suis en train de poser la question de savoir si Toyota ne sera pas tranquillement en train de faire une conversion de l'utilisation de leur technologie à hydrogène des véhicules légers vers les véhicules lourds pour dire qu'on ne perde pas la partie complètement puis qu'on commence à travailler avec des gros fabricants de véhicules lourds.
Oui, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu partageais un peu plus tôt cette semaine sur ta page Facebook, et ça, j'ai trouvé ça absolument génial, un exemple de dépréciation flagrante de la Toyota Mirai du côté des États-Unis. Bon, on sait qu'en Californie, on peut acheter cette voiture-là pratiquement en vente libre. Ils n'en ont pas, évidemment, comme des Tacoma chez les concessionnaires, mais c'est disponible. Et j'aimerais ça que tu me parles de l'exemple que tu avais trouvé, parce que ça, c'est sans comparable chez Toyota, là.
Non, exactement. Ben c'est ça. C'est que sachant combien des voitures de marque Toyota gardent leur valeur, je suis allé faire une comparaison. Et ça, j'avais découvert ça l'automne dernier, justement, quand j'étais allé à Los Angeles. Une Mirai neuve aux États-Unis, prix de départ suggéré, $58,550 US, évidemment.
Ouais.
Ça reste là, quand même pas mal moins cher que le Nexo, là.
Ben, si tu transfères du US au Canadien, t'es pas si loin de ça. Tu vas être autour de 75 000.
Ouais, parce que le Nexo est à 73 000, ouais.
Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même une bonne différence de taux de change. Mais bref, 58 000 US, et puis trois ans plus tard, une 2017 avec 50 000 km, 11 400 US. Taux de dépréciation de 80 % en trois ans.
C'est énorme.
Écoute, j'ai jamais entendu parler de ça pour une Toyota. Même, en fait, je sais pas si j'ai déjà entendu parler de ça pour quelques véhicules que ce soit.
Ah, c'est ça frappe l'imaginaire.
Une Chrysler 300, ça se peut. Mais,
une Toyota, effectivement, c'est j'ai l'impression que c'est du jamais vu, là. Donc, il y a un marché tout petit dans le neuf, mais il y a un marché encore plus petit dans l'occasion. Personne n'en veut, là. C'est ce que je comprends.
Ben, c'est vraiment ce qu'on comprend. Puis, à tel point que sur le même site, je voyais une Toyota Corolla SE 2017, donc une voiture de la même année, qui se vendait 22 000, ben, il demandait plus pour la Corolla qu'il demandait pour la Mirai.
Ben, il faut aussi souligner que, contrairement à la majorité des voitures Toyota qui offrent une fiabilité supérieure à la moyenne, il y en a eu des problèmes avec la Mirai, là, un puis un autre. Ouais. Alors, les problèmes d'utilisation, ça aussi, ça fait en sorte que des gens qui sont peut-être un peu plus à la page sur ces véhicules-là que nous ici, où on n'en voit jamais, sont au courant des problèmes et ne veulent pas risquer de faire le saut vers ce genre de technologie-là.
Et puis, je ne sais pas, messieurs, si vous avez conduit une Mirai, mais moi, j'en ai conduit une. J'ai fait Brossard jusqu'à Québec. J'ai fait le plein là-bas. Je suis revenu. Je l'ai conduit en long et en large. J'ai regardé la consommation que ça donnait, la conduite. Écoutez, pour moi, conduire une Mirai actuelle, c'est comme conduire une Camry 2010. Là, je veux dire, c'est l'intérêt de dire on conduit une voiture électrique, une accélération de tenue de route, on n'est pas là du tout. Là. Vraiment pas.
Ah, ben non. Ben même le Nexo, la puissance est quand même assez limitée. Tu as un mode normal ou un mode éco. Puis si tu mets ça en mode éco, crois-moi, les accélérations, ça n'a pas la fougue d'un véhicule électrique tant que ça. Ouais. Ça se conduit comme un véhicule électrique, c'est silencieux, etc. Mais bon, il n'y a rien d'excitant là. C'est pas comme si on avait réussi à faire de ces véhicules-là des machines palpitante à conduire comme certains véhicules électriques qui ont récemment été introduits sur le marché.
Daniel, qu'il n'y a aucun intérêt avec... Oui, vas-y, Daniel.
Puis, excuse-moi de t'interrompre, mais je veux dire... Puis, en plus, c'est que là, tu parles de payer le prix d'une Tesla performance. Là. Tu comprends? Pour une voiture pas performante, puis pas vraiment engageante à conduire. Fait que c'est quand même paradoxal.
Et qui de surcroît est particulièrement laide.
Mais ça, c'est ça. Quoique
la nouvelle Mirai est pas mal plus belle.
Oui. Ils sont retournés à la table à dessin, puis franchement, là, ils ont mis le paquet. Mais dis-moi, Daniel, pourquoi le gouvernement en a-t-il acheté si, sur tous les plans, ça n'a aucun sens, une Mirai?
En tout cas,
est-ce que c'est une question de lobbying? Parce qu'on sait que le lobbying de Toyota est extrêmement fort, mais jamais je croirais que c'est simplement ça la raison, là.
Ben moi, écoutez, moi-même ayant déjà été au gouvernement, comme ministre de l'Environnement, je peux vous dire que quand un constructeur ou quand un fabricant ou quand un fournisseur t'arrive avec une proposition, si le ministre ne connaît pas le dossier et que ses conseillers ne connaissent pas le dossier, ben à un moment donné, ça devient difficile de faire la part des choses. Et moi, je me rappelle, lorsque le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles était M. Moreau, il avait fait une annonce, lui, comme quoi on pourrait devenir un joueur important dans les véhicules à hydrogène. C'était au Salon de l'auto il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Et puis, on était tous là pour regarder ça de façon totalement stupéfaite parce qu'il a fait des affirmations qui ne tenaient pas la route.
Mais ça démontre je me souviens très bien parce que lors de cette conférence-là, j'étais à côté de toi et la mâchoire nous décrochait. Je me souviens très bien de ça.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est ça que ça donne des fois quand tu as des ministres, des gens dans un cabinet qui ne connaissent pas un dossier, fait qu'ils peuvent se faire convaincre de choses qui ne tiennent pas nécessairement la route. Fait que je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont été mal conseillés. Mais en tout cas, là, maintenant qu'ils sont en plein test, là, ces 50 véhicules-là, je pense qu'ils vont apprendre de ça. Puis s'ils n'apprennent pas, ben il va falloir le dire. Là. Je veux dire, à un moment donné, on peut comprendre, tu sais, comme on dit, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Là.
Donc, un bel éléphant blanc, là.
Une leçon. Ben, écoute, comme je vous disais, en 2009, il y a eu un projet d'hydrogène là, à l'aéroport Trudeau. Quand moi, j'ai annoncé le nouveau projet d'achat de 50 véhicules plus les infrastructures de recharge de ravitaillement pour les véhicules à hydrogène, moi, j'étais de ceux qui ont dit, ben, ça tient pas debout, cette affaire-là. Ben, voilà.
Parce que l'histoire nous avait prouvé que ça n'avait pas de sens.
Oui, mais il y a des gens qui peuvent continuer. Moi, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec le chef ingénieur de Toyota au Japon sur l'hydrogène. Et j'ai passé, genre, 2 heures à Montréal avec eux, puis avec 3 autres ingénieurs. Puis là, ils me disent, oui, mais il faut que tu comprennes que. Puis là, il y a tel intérêt. Puis là, j'étais étonné de voir à quel point j'étais capable de déboulonner rapidement ce qu'eux me disaient, qui étaient les top ingénieurs au Japon de Toyota. Je me disais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Je sais pas comment dire autrement, là, mais pour moi, je pense que c'est une avenue sans issue pour les véhicules pour M. Arthur.
Puis moi aussi, écoute, juste d'avoir conduit le Nexo et d'essayer de justifier de quelque façon que ce soit la pertinence d'un produit comme ça, même s'il vendait 25 000 de moins, il n'y en a pas d'intérêt. Fait que je pense que la question est assez simple. Mais on voulait l'entendre de ta part, Daniel, sachant que tu es un gars qui aime les véhicules relativement verts, bien que tu les achètes toujours bleus. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Vert dans sa conception, bleu dans sa peinture, voilà.
Ouais, exactement.
Ça fait différents bruns, messieurs, j'imagine.
Oui.
On a rien à cacher.
Touché, Daniel.
Dans tous les sens du mot.
Ouais.
Bon, ben merci, Daniel, pour ton temps et puis à très bientôt.
C'est toujours un plaisir, Daniel. Okay. Merci.
Bye-bye.
OK, bye-bye.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Depuis le début de l'été, Antoine, c'est particulièrement périlleux d'accéder à l'île de Montréal. Et toi qui habites sur la rive nord, quand tu n'es pas aux îles de la Madeleine, on est arrivé cette semaine à la goutte qui a fait déborder le vase.
Ben écoute, j'ai lu les innombrables articles qui ont été publiés. J'ai écouté les entrevues, celles que Pierre Bruneau a fait avec Madame la mairesse concernant ses décisions pour créer des autoroutes cyclables au détriment des automobilistes. Et j'ai pas le choix de te dire que j'en arrive à une conclusion très simple. Conclusion que je tire depuis déjà plusieurs années parce que je ne suis pas un Montréalais à la base. Et j'ai toujours trouvé depuis très longtemps que la ville de Montréal se détériore au rythme où la ville de Toronto s'améliore. Parce que moi, j'ai connu Toronto il y a 25 ans, où c'était une ville qui avait un sérieux besoin d'être rehaussée sur le plan de l'urbanisme et de l'image. Et Toronto a fait ses classes, si tu veux mon avis, et Montréal, ça ne va qu'en s'empirant depuis 20 ans. C'est effrayant de voir à quel point aujourd'hui c'est une décharge à ciel ouvert, et tu m'excuses l'expression, mais je ne peux pas concevoir qu'on accepte en tant que citoyen de vivre dans un environnement aussi laid, aussi bruyant, aussi sale que celui-là et aussi désorganisé, parce que même pour les cyclistes, c'est un chaos. Tu lis les commentaires sur Internet et tu comprends que les cyclistes, bien sûr, on aime ça avoir des pistes cyclables, sauf que là, c'est rendu un cauchemar pour tout le monde. Et je te parle pas des automobilistes. En fait, moi, j'en parle en tant qu'automobiliste parce que je dois me déplacer en ville normalement chaque semaine et c'est une blague. Et moi, je le sais parce que je me déplace soit à TVA, soit au bureau de studios de Cube qui sont à côté de chez Archambault, pardon, et tu peux penser à n'importe quelle artère nord-sud de l'île de Montréal pour comprendre qu'on est complètement ailleurs par rapport à 2-3 ans seulement. Alors, Christophe Colomb, c'est une artère que j'empruntais très souvent. Le maire d'arrondissement Ferrandez, à l'époque, avait réduit des voies à l'approche de certaines rues. Ça avait causé un premier chaos au niveau du trafic. Là, on a littéralement coupé des voies pour faire des autoroutes cyclables, alors qu'il y avait déjà des pistes cyclables sur cette rue-là. Donc, c'est rendu complètement fou. Le stationnement s'est rendu un cauchemar. Et je citais dans un article cette semaine le fait que... Dans un passé pas si lointain, je m'arrêtais souvent dans un petit café sur la rue Christophe-Colomb pour aller déjeuner parce que c'était un petit endroit super sympathique, facile d'accès. Je stationnais la voiture au coin de la rue, j'allais déjeuner, je poursuivais ma route. Maintenant, je ne peux plus m'y stationner. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrête plus.
Et c'est un grave problème. Et j'ai l'impression que l'administration à Montréal essaie de faire une ville simplement pour les gens qui vivent sur l'île. Et c'est là qu'on fait fausse route. Parce que, bon, moi, j'y demeure à Montréal, oui, c'est un fait. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien des commerces sur l'île de Montréal qui ne sont pas des commerces de proximité, qui ne peuvent pas survivre avec simplement des piétons et des cyclistes qui vivent dans les quadrilatère. Donc, on a besoin des gens de la banlieue et même de la banlieue éloignée qui viennent en ville et qui viennent dépenser leur argent. Cet été, la rue Mont-Royal est piétonne uniquement. Donc, oui, les petits restaurants, les petits cafés, probablement les commerces de crème glacée sont bien contents parce que c'est facile. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs bouquineries, plusieurs autres commerces qui ont besoin de la business qui sort.
Qui vend des fauteuils, là.
Ben voilà.
Qui vend des meubles, là.
Voilà. Et sur Papineau, il y en a, là, des commerces d'électroménager et de meubles, mais non, malheureusement, c'est impossible. Non, c'est impossible d'accéder à ça.
Moi, ça règle la question, je n'y vais plus. Non seulement je mentionnais que je ne vais plus dans les restaurants, je ne vais plus au théâtre. Bon, là, de toute façon, ces temps-ci, c'est facile de dire que j'y vais plus, mais ça ne m'intéresse plus d'aller au Théâtre Saint-Denis, de payer 30 % plus cher pour avoir une paire de billets, de me battre pour réussir à me stationner s'il reste de la place quelque part.
Et tu parles de Saint-Denis.
De me faire vandaliser la voiture, tout ce que tu voudras.
Et tu parles de Saint-Denis.
C'est inaccessible.
Cette année, l'artère Saint-Denis est piétonne, elle aussi. Alors que, tiens, on serait à proximité du quartier des spectacles où les festivals s'enchaîneraient. Cette année, il n'y a absolument rien de ça. Donc, je te laisse imaginer le désert permanent qu'il y a sur Saint-Denis. Ben, les commerces sont vides, les restaurants sont vides, les bars sont vides. Ça n'a aucun sens.
La mairesse va vider la ville et demandez-vous pas pourquoi il se bâtit des centres-villes en périphérie de l'île de Montréal. Le 10-30 et tout ce qui entoure ça,
oui,
cherchez pas.
On est rendu avec des tours là au 10-30. Là.
Ben oui, absolument. Alors, Montréal, ça va devenir une île qui va être de plus en plus isolée. Bon, je veux dire, il y a mille et une raisons pour pouvoir y aller puis continuer d'y vivre, mais c'est certain que moi qui est en banlieue, qui circule en automobile, c'est c'est une ville que je proscris de plus en plus. Et si j'y vais, c'est uniquement par obligation professionnelle. En dehors de ça, ne m'en parlez tout simplement pas. Je ne veux plus rien savoir de ça.
Voilà, c'est assez clair.
Hein? C'est-tu clair, ça?
C'est très clair. Bonnes vacances aux îles de la Madeleine.
Hey, je veux juste rappeler aux gens en terminant que moi, j'ai beaucoup aimé l'approche de la mairesse qui croit en ses autoroutes cyclistes. Mais je pense qu'il y a un petit facteur qui a été oublié de sa part. Ça se peut-tu, ça?
L'hiver.
Parce qu'il y a un phénomène, qui revient tout le temps d'année après année. Oui. Ça s'appelle la neige et le froid.
Oui. Et elle va te dire qu'il y a il suffit d'avoir le bon équipement et tu peux circuler à vélo quand même.
Ben oui. Des pneus à clous. Puis d'après moi, ils vont installer des pistes cyclables chauffantes pour que ça se déneige tout seul pendant que les bancs de neige s'accumulent sur la rue pour les automobiles. D'après moi, ça va être quelque chose de même. On est rendu là.
Avec ton beau suit de skidoo fluo. Donc, sur cette belle image, Antoine, je te souhaite de belles vacances aux îles de la Madeleine et on se retrouvera, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine en face à face.
Ici, il n'y en a pas de problème de circulation vélo, voiture, ça va très, très bien.
J'imagine. Au revoir tout le monde.
Cube Radio.